Bon, bonjour, je m'appelle Luciana Heyman, je travaille au CEPEDOC, à la Fondation Jules de Vargas. Je vais vous raconter un peu l'histoire du CEPEDOC. Je voudrais tout d'abord remercier l'invitation pour être ici, remercier Aïna, Agnès Moignan qui malheureusement n'est pas là, et aussi aux collègues qui portent le projet PINI, Anne-Marie Grenier-Bessé, qui avait déjà... avec qui on a déjà parlé sur l'histoire orale, Evelyne Cohen, et aussi Tania, que j'ai connue ici à Lyon, et tous les collègues sont là. C'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité. C'est très, je suis très contente d'avoir ce dialogue, cet échange. Bon, il faut dire d'abord que l'invitation, c'était un peu l'idée d'avoir une institution patrimoniale dans le projet, pour faire, disons, une sorte de dialogue avec INA, mais le CEPEDOC n'a vraiment rien à voir avec l'INA. Et au Brésil, on n'a même pas une institution qui puisse être comparée à l'INA, parce qu'on n'a pas les dépôts légaux des archives de télévision, de la radio. Ça serait intéressant de pouvoir connaître un peu le travail de l'Archive nationale au Brésil. Et là, ça sera pour peut-être à Rio, on pourra organiser ça, pour savoir aux archives nationales au Brésil ce qu'ils font par rapport à quelques fonds sonores et audiovisuels. Bon, mais je vais vous parler donc du CEPEDOC, c'est le centre des recherches et documentation en histoire contemporaine du Brésil, où nous avons d'archives pas textuelles, d'un part les archives du programme d'histoire orale, qui sont sonores et audiovisuelles depuis quelque temps, en film, presque tout le projet d'histoire orale. Et d'autre côté, nous avons, je vais passer là, au prochain diapo. Avant, il faut que je reprends un peu pour dire que l'exposition elle est un peu organisée en deux temps. D'abord, je vais vous parler un peu du programme d'histoire orale pour le contexte et après un peu pour le content. C'est ça, non? Le projet auquel je suis attachée maintenant, le projet qui s'appelle Archéologie de la réconciliation, où nous avons produit, créé un fonds d'archives d'interviews d'entretiens d'histoire orale autour du thème de la mémoire par rapport à ce qu'on appelle le processus de justice de transition au Brésil. Bon, pour le contexte, il faut dire, on peut expliquer le programme d'histoire orale, il faut dire qu'il a été créé juste 2 années après la création du CEPEDOC lui-même, ce département qui est dans la fondation de Jules de Vargas. La fondation est une fondation des droits privés. Et il y en a la fondation a des départements, un desquels c'est le CEPEDOC, maintenant appelé École de sciences sociales. Parce qu'après les années 2000, nous sommes devenus aussi centre d'enseignement. On peut parler sur ça après si nous avons le temps. Donc en 73, le CEPEDOC a été créé au sein de la fondation avec cet objectif principal, héberger les archives personnelles des personnalités publiques d'importance dans l'histoire récente du pays et aussi pour développer la recherche historique. La première phase de ces travaux a été voué à la recherche de ce qu'on appelle l'ère Vargas, donc des années 30 aux années 50. Et c'était au moment où nous avons le premier dépôt, le premier don d'archives personnelles. Le premier a été exactement le fonds de Jules Vargas. 2 années après, nous avons créé le programme d'histoire orale. Dans un moment, au milieu des années 70, où la méthodologie d'histoire orale était en train de se firmer dans le monde académique. La première phase de ce programme a été marquée par une identité thématique entre les entretiens et les archives. L'idée était de remplir les vides que les archives avaient, les vides d'information, le vide de... Et donc c'était un peu une sorte de complémentation des archives personnelles. Les potentialités qui ont orienté l'investissement dans l'histoire orale, c'était donc ça, la complémentation des informations. L'idée qu'à partir des entretiens, il serait possible de récupérer l'unité, les flux des événements, donc par rapport au caractère un peu fragmentaire des documents, on pourrait avoir un discours, une narrative que nous donnerait cette unité, bien sûr, par rapport à chaque interview et à chaque interrogé. Et c'était une méthodologie qui permettait de remplir le vide d'informations dans un pays où la tradition de conservation des fonds documentaires n'est pas vraiment très, très bien saisie. La perspective patrimoniale a toujours été présente. D'un côté, pour les archives personnelles, maintenant il faut dire que nous avons 200 fonds d'archives personnelles, mais aussi pour le projet d'histoire orale. Donc l'idée, c'était de produire des sources capables de répondre à la demande des chercheurs, aussi bien que du citoyen. On avait cette... Après, on peut réfléchir un peu à ce qui ne marche pas comme on avait prévu au début, mais bon, aussi bien que du point de vue du citoyen intéressé par le passé. On a toujours été attentif au sujet de l'élaboration d'instruments d'aide à la recherche pour les entretiens en sommaire et un index thématique. Donc on fait l'indexation des entretiens et en sommaire pour qu'elles puissent être consultables. Et ce qui a été toujours présent aussi, la préoccupation d'obtenir un instrument légal garantissant la cession de l'entretien au CPDOC et avec ça l'accès à la consultation. Je vais un peu vite parce que le profil du fonds, il faut aussi expliquer un peu que les archives du programme d'histoire orale se sont constituées au fur et à mesure du développement des projets de recherche. Donc, il y a un projet de recherche au début, et après, dans ce projet de recherche, on va choisir qui va être interviewé, et le classement, donc pour mettre les entretiens dans la base de données, il faut avoir quelques informations en préalable. Et une de ces informations, c'est le projet de recherche qui est le contexte de production de ces entretiens. Il y a eu toujours aussi la préoccupation de créer un corpus d'entretiens avec plusieurs membres d'un même groupe ou d'une même génération pour que ça soit possible d'exploiter la dimension, d'extrapoler, pardon, la dimension individuelle du témoignage. Et là, il faut, peut-être on pourrait un peu discuter, c'est pas la notion de témoignage qui nous oriente, c'est plutôt vraiment la notion d'entretien. Donc c'est le dialogue entre le chercheur et la personne interviewée. Donc ça, je vais... Est-ce que j'ai quelque chose à dire ici? Aujourd'hui, nous avons 126 projets enregistrés, projets d'histoire orale, 2235 entretiens, 7100 heures d'enregistrement audio et ou vidéo. Donc là, l'échelle, elle est toute petite par rapport à tout le monde INA. Je disais au début qu'il y a, nous avons aussi des documents sonores et quelquefois audiovisuels qui sont entrés au CEPEDOR dans les archives personnelles que nous recevons. Donc, mais là, c'est encore moins représentatif, disons. C'est pas quelques centaines de documents, parce que la majorité, c'est vraiment des documents textuels. Mais il y en a aussi quelques des disques, des enregistrements télévisés, quelquefois, que le titulaire a fait, qu'il a donné dans l'ensemble de son archive. Il faut dire aussi, je crois, que 45% du fonds documentaire du programme d'histoire orale toujours est ouvert au public. Pour le 55% encore fermé, nous avons soit des entretiens pour lesquels nous n'avons pas le document de cession, par plusieurs raisons, ou bien les entretiens n'ont pas été encore traités. Donc, elles n'ont pas un sommaire, un index thématique, et donc elles ne sont pas, le chercheur ne peut même pas le voir sur la base des données, l'interface qui est pour le chercheur. Mais là-bas, on a ce passif, disons, à traiter. Ces 7100 heures d'enregistrement sont intégrées par des archives sonores, 100 200 heures, qui nous fait 73% apparemment du fonds qui occupe ça, un terabyte. Je ne sais pas comment est-ce que vous... C'est terabyte ?
C'est pareil.
D'accord. Et pour les archives audiovisuelles, nous avons 1875 heures, donc à peu près 25-26% du fonds. Et là, c'est le total qu'on a sur le serveur. En 2004, nous avons commencé l'enregistrement en format numérique. Vous voyez, nous avons commencé les programmes en 1975, donc on avait 30 ans des bandes analogiques pour numériser. On l'a fait. Pendant les années 2008-2009, on a fait un projet de numérisation de 5000 heures d'enregistrement analogique. Voilà, maintenant, tout est numérisé. Un peu pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a sur la base des données. Après, on peut l'avoir du côté du chercheur. Le contrôle des informations du fonds documentaire à partir de la base de données, donc c'est ça le thème. Il y a une fiche technique de chaque entretien avec le projet de recherche, l'interrogé, l'intervieweur, la date, le local, la durée de l'entretien et les critères de choix de la personne interrogée. Parce que ça, ce n'est pas toujours évident pourquoi on a interrogé une telle personne. Et quelquefois, ça dépend un peu de la sensibilité des chercheurs intervieweurs, on a des notes de terrain. Mais quelquefois, le chercheur, parce que là, c'est les chercheurs qu'il fallait prendre des notes de terrain pendant l'interview, ou bien, mais quelquefois, on n'a pas de notes de terrain. Par exemple, une note sur le premier contact avec la personne interrogée, s'il y a eu des interruptions ou pas, s'il y a eu une demande pour pas enregistrer une partie de l'interview, tout ça. Et en plus, à la base des données, nous avons des informations concernant les conditions d'accès et les traitements de chaque entretien. Donc, les documents de session, si nous l'avons ou pas, et la transcription, quand on a une transcription, le sommaire et l'index thématique. Avec la base des données, on peut gérer donc le fond. C'est ça, c'est pas seulement l'accès aux chercheurs, mais c'est la gestion du fond, savoir quels entretiens n'ont pas de documents de session, quels entretiens n'ont pas encore été traités. Donc ça, c'est un panorama, disons, général. Je ne sais pas si je le fais maintenant, je peux entrer à la base de données juste pour voir. D'accord. C'est le site très ancien, très déphasé, on dit ça. C'est comme un site de 1985 qu'on a vu chez Lena.
Moi j'aime bien.
Non, pas vous. Ah, mais bon, on a un projet de renouvellement, mais ce n'est pas assez facile. Donc, je vais ici, archives, disons. Je vais sur les entretiens, histoire orale. Et je vais faire une... Bon, c'était la base. C'est ici pour consulter. Et je ferai une recherche... avancée, on dit ça en français,
oui,
et pas une recherche simple, parce que la recherche simple, elle nous apporte
trop d'informations.
Oui, des archives privées, des entretiens et d'un dictionnaire que nous avons d'histoire du Brésil. Donc je vais sur un entretien d'histoire orale. On peut faire une consultation par interviewé ou par sujet. Il faut qu'on mette là la liste des... On a ici 933 interviewés. Oui, interviewés. Disons qu'on va choisir... Je vais sur Fernando Henrique Cardoso, le président. Pas pour... pas pour une... oui, c'est pas question de filiation. Non, c'est de... C'est parce que je sais que nous avons trois. On va faire la consultation. Je crois que je ferme ici, pardon. Je sais que nous avons quelques interviews données par lui. Donc, rapidement, nous avons. Parce que chaque interviewé peut être. C'est possible qu'une même personne a été interviewée dans le contexte des différents projets. Donc ici, nous avons une interview réalisée dans le contexte du projet Mémoire orale de Mario Covas. Lui, c'est un politicien qui est mort et après, il y a eu un projet sur lui, développé en partenariat avec la Fondation Mario Covas entre mars et décembre 2002. L'interview est disponible seulement dans sa version publié dans le livre tel. Et bon, le nom, le choix de l'interviewé a été fait par sa rapport politique avec Mario Covas. Et ici, nous avons la référence du livre sur lequel c'est la seule façon de consultation, c'est le seul moyen de consultation qui est disponible dans le cadre de cette interview. 1h40 de durée, ici les données biographiques de l'interviewé, l'équipe et les thèmes, si vous voulez. Ici donc les données biographiques, l'équipe qui a fait l'interview, qui a fait la recherche préalable et l'élaboration du proté, je ne sais pas comment est-ce que je peux traduire ça.
Protocole de recherche.
Scénario, oui.
Protocole de recherche.
Peut-être protocole de recherche aussi.
L'entreviste.
Et le thème.
La grille d'enquête.
J'ai entrevisté.
La grille d'enquête.
Et les thèmes qui ont été choisis pour indexer cette interview. Mais si, par exemple, on va au troisième... Au troisième exemple, on peut accéder à l'interview. Mm-hmm. Parce que dans le cas de ce projet de recherche, qui s'appelle Scientiste social des pays de langue portugaise, histoire de vue, ça a été un projet financé par le CNPq, notre CNRS, qui avait un appel sur le groupe de pays de langue portugaise, il y a une sigle je n'arrive pas à me rappeler. Donc, pour accéder à la transcription et aux vidéos de cet entretien, on peut aller directement sur la page du projet. Donc là, c'est possible. Il y a, par exemple, on peut aller directement sur le document audiovisuel. Ben, ici, c'est les origines, l'ambiance familiale, la fac de sciences sociales, parce que les sociologues, ses références en sociologie, l'influence d'un autre intellectuel, Florestan Fernandez, et la recherche qu'il a faite sur les Noirs à São Paulo. Donc, c'est le sommaire de cette partie de l'interview. Bon, là, on aurait la date et à qui il a donné l'interview, deux chercheurs du CEPEDOC. D'accord. Donc ça dépend le. Ici donc c'est 15 blocs d'interview. Il y a aussi la transcription. Oui. Ici. Donc il faut avoir, c'est possible d'avoir la transcription intégrale de l'interview. Mais ça dépend des projets. Des projets qui ont des budgets ou pas. Pour le dire très simplement. Donc ici,
c'est du PDF, c'est pas lié à.
Non, c'est du PDF. Nous n'avons pas le système que vous avez déjà de transcription.
L'Excel.
Oui, non, pas encore. Donc, je crois que pour la base de données, pour le moment, je crois que c'est ça. Donc, je répare ici. Mmh. Ouais.
C'est mettre en. Voilà. Et de lancer un diaporama à partir.
Donc, nous sommes allés sur la base de données. C'est ça? Donc maintenant on peut, vous voyez ici, on peut faire un link sur Facebook si nous voulons par exemple valoriser ou bien diffuser une interview, c'est possible, c'est récent ça, c'est possible de publier, faire un post sur Facebook et avoir un link, un lien direct avec l'interview. Bon, je passe alors après ces notes générales à propos du programme d'histoire orale. Je serai ravie de vous répondre aux questions s'il y en a après. Je pars au projet Archéologie de la Réconciliation, qui est un projet qui s'est développé pendant 2 années, de mai 2014 à jusqu'à maintenant. On essaye de finir le résultat. Le nom du projet est complet est là. Élaboration, mise en application et réception des politiques publiques en rapport avec les violations des droits de l'homme pendant la dictature militaire. Donc c'est un projet spécifique. Il faut dire qu'il y a eu un contexte de réalisation de ce projet. Ce projet a été financé par l'Agence des financements de l'État des Rio de Janeiro, la FAPERJE, en partenariat avec la Commission des vérités de l'État des Rio de Janeiro. Donc, il y a eu un appel d'offres et 7 projets ont été financés, dont celui-là. La commission des vérités de Rio de Janeiro a travaillé de mars 2013 à novembre 2015, ainsi que diverses commissions créées dans différents États de la Fédération qui ont cherché à assurer le suivi et soutenir les travaux de la Commission nationale des vérités qui a fonctionné de 2012 à décembre 2014. Donc il y a tout un contexte qui a permis de proposer ces projets et un contexte auquel peut-être on pourra revenir après. Les objectifs du projet sont quatre. La création d'une archive d'entretien avec des personnes liées au procès, soit d'élaboration, soit de mise en application ou de réception des politiques publiques de réparation. L'organisation de l'archive personnelle d'un monsieur qui s'appelle José Grégory, ancien secrétaire national des droits de l'homme, au moment où le politique de réparation, disons, a commencé au Brésil dans les années 90. Donc il a été secrétaire national pendant le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, qui était déjà déposé au CPDOC. Donc nous, on avait l'archive, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité du projet pour demander des stagiaires, des boursiers, pour arriver à... parce que c'est une archive énorme, pour l'organiser. Bon, bien sûr, faire l'analyse des principes à la base de la création des politiques de réparation par l'État brésilien. Et ce que je trouve c'est le plus important et qu'on doit... pas le plus important, mais là, une chose qui je trouve que c'est vraiment important, la proposition d'élaboration d'un support didactique sur les thèmes du projet. Donc, parce que c'est un thème qu'il faut vraiment travailler dessus. C'est là, disons... une façon de faire le travail de mémoire, c'est d'avoir des supports didactiques. Donc on aura une archive énorme, il faut que ça soit exploité pour le grand public. Donc, des données générales, l'équipe, ce sont 8 maîtres de conférence du CPDOC qui sont engagés, même si pas tout le monde a le même engagement, plus les étudiants à divers niveaux de formation qui travaillent comme boursiers, la coordination d'une collègue à moi, Angela Moreira, et la duration, j'ai déjà parlé. Pourquoi archéologie de la réconciliation? Ce nom, un peu... Foucaultien, peut-être.
Foucaldien.
L'idée, c'est que le principe présent dans les politiques publiques et les textes légaux élaboré par l'État brésilien dans le but de traiter les violations des droits de l'homme commises pendant la dictature, soit les politiques, soit les textes légaux sont basés, disons, ou utilisent l'idée des réconciliations. Et l'intérêt du projet était exactement de discuter dans les sens donnés à la réconciliation par chaque acteur participant à ces processus. Donc, il faut... je ne sais pas si c'est ici. Oui, je vais parler tout à l'heure. Mais que même le titre du projet a été questionné, mis en question par quelques interviewés. Nous avons dit, bon, réconciliation, il n'y a pas eu de réconciliation. Donc, là, c'est un mot vraiment sensible, disons... par rapport à la mémoire de cette période. Donc, on a dû expliquer que c'était exactement réfléchir aux usages de cette catégorie et montrer qu'elle n'est pas consensuelle du tout. Qu'est-ce que nous avons maintenant comme archive de ces projets? Nous avons 18 interviewés, 110 heures d'enregistrement vidéo. C'est assez grand pour un projet.
C'est uniquement vidéo.
C'est, oui. Nous avons essayé d'avoir, de faire des entretiens avec trois catégories d'acteurs, mais il faut dire que, qu'une personne peut s'inscrire dans plusieurs catégories, parce qu'il y a, au long de ces 37 années écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi de l'amnistie, qui est les débuts, disons, de l'ouverture politique, de la redémocratisation, même si les politiques des réparations ont commencé seulement aux années 90, mais c'est la loi de l'amnistie qui a marqué un peu la fin de la dictature, même si c'est en 85 que nous avons élu un président. Pas directement. Nous avons eu le premier gouvernement pas militaire.
Dans ces responsables politiques, il y a aussi bien les bourreaux que les victimes.
Non. Nous avons par exemple, nous avons interviewé le monsieur José Grégory, le titulaire de ce fonds d'archives que nous sommes en train de traiter dans le contexte du projet, qui est un monsieur qui a maintenant 85 ans, qui est à la retraite, mais qui était très, très engagé dans le politique, les lois, l'élaboration des lois, des réparations et tout ça. Non, nous n'avons pas de bureau ici.
Par décision ou par impossibilité?
Parce que peut-être les deux. Ce n'était pas le but du projet, c'était de voir plutôt la réception du côté des personnes qui étaient attingées, est-ce qu'on dit ça, atteintes par la dictature. Et pas trop. Et bon, ça serait, je crois, difficile aussi, plus difficile.
Forcément, c'est les tortionnaires en France, ils ont répondu à Raphaël Blanche.
C'est plutôt, je connais pas un projet de recherche universitaire qui aille.
Si, il y en a beaucoup dans les pays de l'Est en fait, en Lituanie.
Au Brésil. C'est les journalistes qui le font. En fait, c'est les journalistes qui ont interviewé des bourreaux là-bas et en sortant de grands reportages. Alors là, pour dire un mot sur les médias. Avec les interviews qui ont été, quelques interviews qui ont été faites avec quelques bouteilles. Donc là, c'est trois catégories de responsables politiques, de ces politiques publiques, quelques agents de la société civile et les personnes qui ont été, disons, bénéficiaires de ces politiques. Là, j'ai déjà expliqué, et bon, j'ai déjà parlé sur ça, que même le nom du projet n'a pas été très bien reçu par tous les interviewés. Mais c'était exactement l'idée, parce qu'il y a un extrait de... On a posé cette question à tous les interviewés sur le sens de la réparation et tout ça, même sur... la loi qui a créé la Commission nationale de vérité en 2012, les mots réconciliation étaient là. Donc c'est vraiment la continuité, je crois, sur cette façon de penser la justice de transition ou la transition. Finalement, j'arrive à quelle nouvelle contribution ces entretiens apportent-ils à la compréhension du process de justice de transition au Brésil? Quelle est la différence entre ces entretiens et les témoignages recueillis auparavant auprès des mêmes personnes? Parce qu'il faut dire que ces personnes, par exemple, le militant de ce thème, ont été déjà interviewés plusieurs fois. Et quelques interviews, c'est ça. Je vais vous montrer après, pas sortir, je peux apporter maintenant. C'est possible de trouver sur YouTube, par exemple, si on met le nom Susana Lisboa, par exemple, une de nos des personnes qui nous avons interviewées, exactement cette personne, veuve de Luiz Eurico Lisboa, un disparu politique, qui est une militante très présente dans les luttes pour la réparation, les informations autour des disparus et tout ça, pour le corps, les demandes de corps des personnes disparues. Et on peut trouver sur YouTube quelques extraits. Et c'est intéressant de penser que le thème, il y a quelques histoires qui sont dans l'entretien qu'on a fait et aussi bien dans les extraits qui sont sur YouTube.
Il y a des convergences.
Je dirais qu'il y a quelques thèmes, quelques histoires, quelques mémoires qui sont vraiment saturées, l'idée de saturation, qui sont toujours présents dans les discours de ce personnage-là. Et donc, une question que je me suis posée, c'était, bon, alors, si on savait déjà les histoires, ces histoires prégnantes, ces histoires, des dénonces, des dénonciations. Oui. Bon, qu'est-ce que notre projet, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, de nouveau? Je répondrai en disant que ces entretiens aident à dessiner le mouvement social à la recherche de vérité et de justice en action à partir de la fin de la dictature, y compris avec différents acteurs sociaux, stratégies et drapeaux de lutte. Ces entretiens démontrent que la lutte ne s'est pas limitée à combattre les régimes militaires. C'est la perspective la plus visible et connue. Les groupes qui ont lutté contre la dictature, mais qu'il y a un mouvement social, ce que j'appelle un mouvement social, qui a commencé au moment où la dictature est finie. Donc, et qui est, je trouve, mes collègues brésiliens pourront... réagir à ça, je trouve que c'est une lutte beaucoup plus silencieuse et invisible, la lutte qui est venue après la fin de la dictature. Ces entretiens révèlent aussi les désaccords, bien sûr, et les disputes au sein de ces mouvements sociaux concernant le suivi des demandes, ainsi que les limites de la négociation avec les agents de l'État dans les processus de consolidation des politiques de réparation. Le projet nous donne à voir que ce mouvement social n'est pas homogène, il n'est pas intégré même. Il y en a beaucoup de groupes là-dedans, de façons de penser la lutte pour la réparation. Et donc là, c'est une autre chose que je crois le projet d'histoire orale nous aide bien à comprendre et à voir. Le troisième... acquis que je suggère, c'est que les entretiens révèlent les acquis du mouvement social concernant la définition des instruments légaux. Ça veut dire le fait que quelques instruments légaux ont été vraiment, disons, négociés entre les agents de l'État et ce personnage qui était le militant. Donc il y a eu pour, disons, la loi des disparus, des morts et disparus. Le texte de ces lois a été, d'une certaine façon, pas négocié, c'est trop fort, mais a été objet de débats entre ces groupes, ces personnes. Et aussi le travail de production d'informations, la recherche et le résultat, la recherche d'informations, les résultats que ces groupes ont eus pendant la militance, dans les archives qui étaient fermées pour une grande partie, jusqu'à nos jours, hein, les archives de l'armée sont fermées. Mais on a eu des avances, mais au début, les archives étaient plutôt fermées. Dans le cimetière, il y a vraiment des rapports très impressionnants de la façon par laquelle ce groupe s'est mis à la lutte pour avoir des informations, pour pouvoir trouver la responsabilité de l'État et tout ça. Et bon, tout le réseau personnel qu'il, l'interview d'histoire orale me donne à voir aussi. Donc c'est ça, pour commencer. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.
Bon, je voudrais peut-être que ce soit Marie qui commence, non, parce, non, que, parce que je ne vais pas intervenir sur le contenu scientifique de la recherche, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment passionnantes dans la construction de l'archiviste avec du compagnonnage recherche et archiviste. Et ça, c'est vraiment important pour l'organisation de la formation, pour que... Donc ce matin, on vous a dit « contexte est une grande ». C'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, finalement, de se dire qu'une archive, elle ne peut être utilisée que si on comprend le contexte de production. Et ça, c'est, on oublie beaucoup trop, parce que c'est vrai que le témoignage, aujourd'hui, est beaucoup aussi utilisé pour de l'émotion directe, sans qu'on, finalement, on puisse comprendre dans quel cadre il a été fait. Et ça, c'est ce qui me touche beaucoup, c'est ce travail d'archéologie de la production, c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi on construit cette archive, pourquoi on la met à disposition. Ce que je trouve aussi vraiment, enfin, je trouve que c'est assez, presque un peu pilote comme fonctionnement, cette idée aussi de travailler toujours avec des contrats de cession, contrats de cession pour la mise à disposition, puisque ça aussi, c'est pas quelque chose qui est si évident, en tout cas en France, quand on fait des entretiens, de faire signer des contrats d'autorisation et de spécifier, enfin, dans le droit français par exemple, pour la diffusion, ce qui va être, enfin, l'utilisation plutôt, ce qui va être important, c'est que le témoin comprenne ce qu'on va faire de son entretien. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est intéressant de voir qu'un de vos témoins n'accepte pas, dans certains cadres, d'avoir sa parole diffusée, puis dans d'autres cadres, peut-être plus un récit de vie dans lequel il se sent moins pris à partie dans la discussion. Donc là, il va accepter la mise à disposition. Donc là, c'est vrai que j'avais aussi des questions, peut-être, mais c'est pour ça que ça aurait été quand même bien que tu commences pour poser des questions, peut-être sur les contenus, mais sur les questions peut-être plus éthiques, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir des contrats de cession, mais parfois, même si la personne souhaite parler, on peut la mettre en difficulté pour là, en plus, il s'agit de situations difficiles. Et donc, je vois bien, moi, dans le cadre de la phonothèque, puisque je suis responsable d'archives sonores à Aix-en-Provence, je peux avoir des autorisations par un témoin, et en fait, je choisis aussi de ne pas mettre certaines parties de l'entretien, en collaboration avec ce témoin, en discutant avec ce témoin, parce que ce qu'il dit peut mettre en difficulté soit des personnes, soit lui-même. Et ça pose aussi des questions. Est-ce qu'on doit découvrir à travers les archives des entretiens, des informations? Tout ça, c'est un peu compliqué, en fait. Et c'est vraiment essentiel que vous vous posiez ces questions de contrat de cession. Et alors, d'un point de vue plus technique aussi, je me demandais quel était l'intérêt, finalement, du film. Parce que, bon, on a vu qu'une seule petite partie, mais je vois bien que ce sont des prises de qui sont, enfin, cadrées, sans bouger, enfin, comme on sera d'ailleurs représenté dans ce film, c'est-à-dire que c'est intéressant, bien sûr.
On n'a pas dit ton nom, Véronique Genoves.
Véronique Genoves, donc responsable d'une phonothèque à Aix-en-Provence. Et c'est vrai que parfois, donc il y a un engouement pour l'image filmée, qui n'est pas toujours évident, parce que je notais que vous avez par exemple 8 téras de son, et alors qu'il y a beaucoup moins d'heures, je ne sais combien de téras de vidéo, c'est énorme. Donc c'est très complexe en plus, parce que la vidéo, ça veut dire transférer régulièrement, c'est un format qui aujourd'hui n'est pas très stable. Par contre, vous avez bien noté que vous travaillez pour le format du son dans le format WAV, qui lui se transfère facilement, qui est un format connu et simple. Donc ça aussi, c'était une question. Est-ce qu'on est toujours obligé de filmer, surtout des personnes parfois assez âgées, qui vont, au bout d'une heure d'entretien, peut-être ne pas donner une image toujours très positive de ce témoin. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux aussi qui se font avec photographies fixes qui peuvent être pas toujours la même, mais qui peuvent présenter justement aussi un contexte, parce que c'est vrai, c'est intéressant, enfin je ne sais pas comment là aussi c'est une question, comment sont ces entretiens, est-ce que les personnes se déplacent ou est-ce que vous vous déplacez, donc il y a aussi tout un contexte qui peut être compris à travers le film, ou alors peut-être des photographies et l'entretien. Voilà, et puis, dernière, enfin, il y a beaucoup, j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire, parce que je trouve que ce travail est vraiment intéressant aussi, de par sa démarche, non seulement par le contenu, mais aussi par la démarche, c'est le fait que ben, le temps de travail, on l'a vu, vous avez parfois des transcriptions, parfois pas, parfois des analyses des contenus par ensemble cohérent. Mais c'est un temps de travail, qu'il s'agisse de l'image ou du son dans l'entretien, qui est un temps réel en fait. Ouais. Donc si on a une heure d'entretien, on a à minima une heure de transfert si c'est analogique, parce que le temps du transfert sera toujours le même. Ensuite on a le temps de l'analyse. Et si on veut, donc je me souviens plus que j'ai noté que vous aviez encore pas mal d'heures à traiter sur les 7000 heures, parce que je crois que ça revient en 40% du fond. Ça fait beaucoup d'heures à traiter aussi, et ça, c'est un peu crucial aussi. Est-ce que sur cette mise à disposition, on ne peut pas aller un peu plus vite en fonction de critères qui vont être différents? Enfin voilà, c'est toute une série de questions, mais c'est vraiment passionnant de voir un projet aussi complet, je trouve. Et le terme d'archéologie est intéressant aussi d'un point de vue archivistique, parce que tout est, la stratigraphie est complète dans cette archéologie, c'est intéressant.
Alors, Marie-Granet,
j'enchaîne. Donc, d'abord, je suis très contente d'être à côté de Luciana, que je connais depuis 98, hein, peut-être, hein, parce que, juste sans faire de l'éco-histoire, mais... le CPDOC et la Fondation Gétoulou-Barga avaient organisé une conférence d'histoire orale en 98. Et c'est là que j'ai découvert le CPDOC. Et j'étais fascinée par ce qui était fait et ce que tu as rappelé nous réinscrit dans l'histoire de l'histoire orale. C'est-à-dire que véritablement, on se rend compte avec les dates que tu as données qu'on est véritablement là dans la façon dont au Brésil, il y avait une avance et une construction rigoureuse, forte, de tout ce qui était la prise en compte de ces sources, alors qu'en France, ça restait quand même extrêmement sur le côté, décrié, pas forcément reconnu, sauf dans des lieux particuliers, dont la Phonothèque à Aix. Mais il y avait vraiment là, ce que Véronique a rappelé aussi, c'est autour de projets, la volonté de garder d'emblée, avec une rigueur, une méthode tout à fait importante, toutes ces archives sonores, ces archives orales, et ce que tu dis, c'est le témoignage, et puis les entretiens qui sont structurés. Il n'y a pas que ça au CPDOC, mais il y a aussi ça, il y a des photos, tu en as pas parlé, mais il y a aussi tout ça. Donc il y a ça, il y a aussi la redécouverte en 2003, et puis quand vous étiez venu en 2010 à Grenoble, quand on avait aussi travaillé sur ces programmes autour des questions un peu difficiles, sensibles, la comparaison qui pourrait être faite autour des questions de la guerre et ce que tu réexpliques sur ce projet extrêmement intéressant. Alors, je ne vais pas être très longue, sinon il y aurait également énormément de choses à dire. Mais j'aurais aussi des questions à poser, mais ce qui me paraît tout à fait intéressant, parce que j'ai participé, il y a quelques années, je ne sais plus la date, à un programme qui était conduit par Bogumil Jovinski, qui portait sur toutes ces questions de justice et réconciliation, qui avaient été faites notamment autour de tout ce qui était Maroc, Algérie, Tunisie, et puis Bogumil travaillait aussi avec l'Afrique du Sud. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment votre projet s'inscrit, ce que tu as rappelé, et j'aimerais savoir si vous êtes au sein du continent latino-américain les seuls à travailler sur cette question, ou est-ce qu'il y a eu des travaux de même nature qui auraient pu être menés en Argentine, au Chili. Parce que, évidemment, on a travaillé avec cette mémoire, et ce que tu as rappelé, c'est des gens qui ont pu parler dans un contexte particulier et des gens qui parlent dans le cadre d'un programme qui s'appelle Archéologie de la réconciliation. Ce qui serait très intéressant, c'est de comparer les témoignages, ce que vous faites, j'imagine très bien, entre le cadre d'enquête et d'entretien et un autre cadre. Parce que en France, on a pas mal fait d'entretien avec des Cambodgiens, enfin Grenoble, je pense, si tu parles, avec des Chiliens réfugiés, avec des Cambodgiens qui acceptent, à partir d'une certaine période, avec un certain temps, de parler de ces questions qui ont été liées à ces périodes de dictature, ces périodes difficiles. Et donc, comment, à un moment donné, on sort de la parole silencieuse pour pouvoir accepter de le faire. Mais il me semble que c'est vrai, et vous en êtes tout à fait sensible, le cadre dans lequel on mène ces entretiens est tout à fait important, parce que je pense que l'idée de réconciliation, comme le témoin le dit, fait qu'on va accepter ou pas de le faire. Est-ce qu'il y a derrière la question des réparations? Est-ce que cette question intervient? Est-ce que c'est un élément qui intervient dans le fait que les gens acceptent ou pas de parler? Est-ce qu'il y a une revendication, pas seulement symbolique, mais aussi matérielle, dans la question d'accepter de parler? L'autre question, et par analogie avec ce qu'on avait vu quand j'étais allée au Maroc, c'est qu'on avait la contribution entre des historiens qui avaient mené tous ces peu à votre, de la même façon, mais je pense pas avec un système de conservation et de structuration des données aussi rigoureux. Mais il y avait à la fois des historiens, il y avait des gens qui appartenaient au monde de la justice. Parce que c'était dans le cadre des procès. Donc là, c'est aussi... Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est aussi un élément qui est important. Tu rappelais le contexte. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important dans la question de la nature de la parole que l'on recueille et des récits que l'on recueille. Donc ça, c'était un élément que je voulais souligner. La question aussi que tu as évoquée, qui est la question des bourreaux. La question des bourreaux, qui est une des questions parmi les plus difficiles, à mon sens. La question des bourreaux, dans la mesure où, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'il me semble qu'au Maroc, il y avait des gens qui avaient participé, mais parce que c'était dans le cadre d'un procès, qu'on entendait à la fois ceux qui demandaient réparation, et puis les accusés. Il y avait ce travail qui avait été conduit, et là, c'est votre projet, c'est pas quelque chose qui a été lancé par le gouvernement. Ou alors, j'ai pas suivi, c'est votre projet, c'est un appel d'offre du gouvernement.
Du gouvernement.
Ça, donc, c'est quelque chose qui est officiel.
Oui.
C'est ça. Mais ça, c'est aussi important dans la nature de ce que l'on recueille. Et puis, il me semble que j'avais une autre question. Ceux qui font les entretiens, qui mènent des enquêtes, c'est des maîtres de conférences, ils ont quel âge? Et quel est leur rapport au sujet? Dans la mesure où il est évident qu'on ne fait pas des entretiens qui sont quand même souvent difficiles, c'est quand même des mémoires traumatiques. On est là dans le cadre d'une mémoire traumatique et... on ne peut pas mener ces entretiens de la même façon si on a un rapport. Est-ce que ce sont des enfants, des petits-enfants? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet? Est-ce que politiquement ils sont engagés? Comment vous avez construit ce programme collectif? Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un programme collectif et que là, on a la recherche, la conservation et un centre qui est véritablement dédié à tout ça. Et dernier élément, parce que je ne veux pas être trop longue, c'est une des questions, alors là, que tu as soulevée, que je trouve extrêmement passionnante, et moi qui me pose question en tant qu'enseignante, et qui parfois me désespère, tout ça, quel effet dans la société? C'est-à-dire qu'il y a un programme didactique. Ça, je pense que c'est de ce fait extrêmement important de relier la recherche et aussi son usage. C'est-à-dire que vous avez toujours eu cette dimension, enfin, c'est pédagogue, je ne veux pas revenir, mais quand même, en fait, toi, tu travailles là-dessus depuis longtemps, cette volonté de passer aussi, de restituer, de rendre les choses et de l'utiliser dans un cadre didactique. Mais moi, on a eu toutes ces questions qui sont posées dans un autre cadre, qui sont autour de la Seconde Guerre mondiale, maintenant de la guerre d'Algérie, on commémore des choses, on fait de la réconciliation comme ça, mais dans le fond, quand on regarde ce qui se passe, on a beaucoup de travail à faire dans le cadre didactique pour que, non pas que ça serve, parce que je ne sais pas si l'histoire sert, hein, je finis par penser que ça ne sert pas, mais que les archives puissent... voilà. Je pense que qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut avoir, parce qu'il y a un côté quand même un peu militant derrière ça, ouais. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça avec les nouvelles générations? Et comment... pas sans arrêt en train de finalement revoir apparaître ce sujet qui, dans le fond, pour lequel on essaye de construire. Et après, c'est dernière chose.
Parce que j'aurais voulu quand même rebondir sur ce que tu
disais. Mais je termine. Comment vous travaillez sur la question que tu as soulevée de cette lutte silencieuse, donc du silence de tout ce qui existait? Silence ne veut pas dire oubli, bien entendu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ressurgit? Comment est-ce que vous travaillez avec l'oubli, volontaire ou pas, ou du moins, comment vous travaillez cette question de l'oubli? Comment vous travaillez cette question d'une mémoire qui ne peut pas s'exprimer? Parce que c'est quand même sans doute souvent des mémoires traumatiques, et le choix de vos témoins, c'est ceux qui acceptent, ceux qui veulent, vous êtes allés les chercher, vous avez fait un mixte de tout ça.